bonsoir tout le monde. Non, je pense que je vais rester debout. J'ai passé ma journée assis, alors on fait des sports. Je suis nerveux. Depuis tantôt, je me dis si, pourquoi j'ai dit oui encore. Puis pourtant, ça m'a pas fait ça la journée. J'ai pas pensé la journée, mais là, c'est ça. C'est comme ça. Il y a un outre mangeur en dedans de moi qui est ambivalent souvent. Alors, je suis Stéphane, je suis un outre mangeur compulsif. Oui, tout le monde. Ça fait 38 ans que je connais les outre-mangeurs anonymes. Je suis revenu depuis 18 ans, après une rechute de 10 ans, où j'ai connu pour moi l'enfer, parce qu'à 16 ans, bon, la perte de la maîtrise de ma vie, et puis les troubles de santé, j'avais pas connu ça. Mais après cette rechute-là, je suis revenu battu, je suis revenu à terre, je suis revenu prêt à faire n'importe quoi pour que ça arrête. Alors, c'est important que je vous dise que la première fois que je suis arrivé, moi, je voulais être maigre. Mon but, c'était de maigrir. Alors, pour moi, OA, c'était comme une solution à mon problème de poids. La deuxième fois, c'était une solution à mon problème de compulsion alimentaire parce que, je le dirai pas parce qu'on m'enregistre, je me suis dit que je ne sacrais pas. Disons que je me sacrais que... je reste gros, je voulais juste là arrêter de manger parce que ça me faisait mal de manger, parce que j'étais incapable de m'empêcher de manger, parce que ça me faisait souffrir et je mangeais en pleurant et je faisais des affaires que j'avais jamais faites dans ma vie avec la nourriture et je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable d'arrêter. Alors je vais juste revenir un petit peu dans mon enfance. Très jeune, on a découvert, en tout cas quand je fais le recul de tout ça, que j'avais des problèmes de comportement avant des problèmes de nourriture. Alors, j'étais un enfant qui était insécure, j'avais de la misère à être en relation avec les autres, j'étais comme un peu dysfonctionnel dans mes relations. J'avais comme une relation de symbiose avec ma maman et disons qu'elle ne pouvait pas trop s'éloigner de mon champ de vision parce que je devenais un monstre. Il n'y avait pas grand gardienne qui voulait me garder parce que je faisais du grabuge jusqu'à ce que ma mère revienne. Alors ça, c'était avant que la compulsion commence à se déclarer. J'ai encore un souvenir, je suis rendu à 54 ans, j'ai encore un souvenir de la première fois où la nourriture a été comme un réconfort pour moi. Je viens de me faire enlever les amygdales et on me donne la crème glacée. Puis ça vient tout comme glacé. Ça me fait du bien. Et... c'est un souvenir que j'ai conservé. Et probablement jusqu'à ma mort, c'est quelque chose qui va me rester. C'est ce souvenir de douceur-là qu'un aliment froid peut faire quand on a mal à la gorge. Alors, j'ai ça vers l'âge de 9 ans. J'avais déjà un problème de poids assez bien senti pour que mes parents consultent. J'étais le petit gros de l'école. Bon, ça s'est ensuivi. J'ai fait une première régime à 9 ans. Je suis allé chez les WW là, pour conserver leur anonymat. Et ça m'a permis de perdre du poids, mais ça a déclenché quelque chose que je n'avais pas connu. C'est une obsession. C'est une obsession d'être maigre et qui ne m'a jamais quitté. Alors, c'est quelque chose qui est là, qui tourne continuellement, ce désir-là d'un jour peser 160 livres. J'ai rencontré un membre qui a presque 40 ans de mouvement, qui est rendu à 82 ans, puis il m'a dit qu'il pesait 160 livres. Et je l'ai connu, moi, il y a 32 ans, puis il était un petit peu plus enrobé, puis il est tout fier de me dire « Je suis rendu à 82 ans, puis je pèse 160 livres. » J'ai dit « Ben, si, j'espère qu'à 82 ans, je vais peser ça. » C'est comme... Mais c'est ça. Alors, ça a développé, moi, cette obsession-là, et c'est vraiment devenu quelque chose que j'ai voulu avoir tous les matins. Alors, à tous les jours, là, j'ai voulu, moi, que ça fonctionne et que je reperde du poids. Alors, la première fois, j'ai perdu une trentaine de livres que j'ai repris, bon, et ainsi de suite. À 16 ans, j'ai été rendu à une perte de poids d'environ 60 livres et je suis arrivé à OA dans ces conditions-là. Je suis arrivé avec... J'aime ça le dire. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, je vais vous le dire à soir. La première fois, quand je suis arrivé, là, je savais que j'étais déjà battu par la nourriture. Là, j'étais comme quelqu'un sur un paquebot qui tombe dans plein milieu de la mer, là. Puis il sait que si le paquebot s'en va, il est mort, il a besoin d'aide, tout ça. Mais quand on a lancé à bouée, là, j'ai sorti mon plus beau crawl, puis j'ai fait « Laissez faire, je vais nager jusqu'au bateau! » Puis je me suis rendu, là, tu sais, avec, là, je suis sorti de là avec cette énergie-là de « Je suis encore capable. » Quand je suis revenu il y a 18 ans, j'étais à la même place, j'étais encore tombé dans le milieu de la mer. Puis quand la bouée est arrivée, j'avais un toupette dans la face. Je me suis tourné après ça, puis j'ai dit, « Asti, montez-moi, je suis plus capable. » Puis j'étais prête à faire n'importe quoi, là, comparativement à la première fois. Et n'importe quoi, c'est quoi? Je vais essayer juste de vous dire comment qui est mon outre-mangeur, là. Il y a outre-mangé, comme de raison. Je suis un outre-mangeur de grande quantité. En fait, je suis un être compulsif. La compulsion alimentaire s'est développée jeune. À l'adolescence, je suis allé dans d'autres substances, puis j'ai compulsé là-dedans. Puis comme j'ai connu OA jeune, ça m'a comme empêché de développer d'autres substances parce que je me voyais aller là-dedans comme dans la nourriture. Puis je savais que l'issue était la même chose, sinon plus rapide et plus fatale. Fait que ma drogue de prédilection, elle a resté comme la bouffe. Mais en dedans de moi, j'ai un alcoolique, j'ai un toxicomane, j'ai même un gambler, puis je pense que j'ai un sexaholic. Mais celui-là, il vient juste de se réveiller. Moi, il a donné une couple de semaines encore avant d'en parler à quelqu'un. C'est pas un problème encore, c'est ça. Alors, c'est ça. Mais j'hésite tout, en fait. Je suis un compulsif. Alors, tout ce qui fait moi, ça vient me chercher, puis il s'agit juste que je sois fatigué ou que ça aille mal, que j'ai le goût d'aller me chercher ce petit là. C'est ma nature. Je suis un mangeur de grande quantité. Alors, moi, j'ai travaillé dans les services alimentaires et manger une panne grande de même à coups de petits carrés, là, sans m'en, ben, pas sans m'en rendre compte, mais je peux dire presque sans m'en rendre compte, mais je retournais, puis d'un coup, je regardais la panne, mais sacrément, ça se peut pas. J'ai mangé ça en 2 heures, tu sais, j'ai mangé la moitié de la panne, puis c'était comme ça. Alors, si bon, je suis chez nous, puis je continue de manger, puis bon. Juste avant de revenir, il y a 18 ans, je suis dans un état que je considère lamentable. J'ai des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension qu'on n'arrive pas à régler. J'ai des reflux gastriques que je n'ai jamais eus, mais qui sont assez imposants pour que je me réveille la nuit puis que je réveille la maisonnée parce que je me noie dans ces reflux-là. Puis à chaque nuit, je me dis, « Asti, il ne faut pas que ça recommence. » Puis le lendemain matin, là, après que j'ai pris un déjeuner raisonnable, puis c'est comme 15-20 minutes plus tard, « Asti, ça recommence. » Puis ça n'arrête pas jusqu'à temps que je me couche le soir dans les mêmes conditions que la veille. Et je suis plus capable. J'ai un beau-frère, moi, qui est dans une autre fraternité, puis c'est sûr que c'est pas de ça que je parle quand je ne vais pas bien. Moi, je parle des autres. Je parle de ma blonde. Je parle de tout ce qui ne va pas dans ma vie puis tout ce qui me dérange. Fait que je dis à mon beau-frère comment que sa sœur n'est pas correcte, puis bon, et ainsi de suite. Puis c'est à cause d'elle que tout va mal. Puis bon, il me fait prendre conscience à quel point je suis un gars privilégié. Et il est dans une autre fraternité, puis il me parle du mode de vie. Puis il me fait juste de me répéter quelque chose que on lit des fois dans le aujourd'hui, qui dit, là, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a 10 autres qui s'ouvrent. C'est Hélène Keller qui a écrit ça. Puis il me parle de Dieu, puis il me parle de faire confiance. Puis après 10 ans de rechute, il y a comme une brèche qui se fait. Puis je me rappelle que j'ai déjà pensé comme lui. Et je décide de revenir à Rouen. Alors, c'était le 18 juin 1999, content de retrouver sur le message d'Outre-mangeur anonyme, mais dans le bottin qu'Outre-mangeur anonyme existait encore, content qu'il y ait quelqu'un qui fasse le message pour me dire qu'il y avait un meeting le lendemain soir, content que quelqu'un me rappelle pour me dire que oui, ça existe encore au haut, et oui, il y a des meetings, et on me donne une adresse, et je me rends là à mon premier meeting. Quand je suis rentré, il y avait une salle d'une quarantaine de personnes. Moi, là, dans mon jeune temps, là, on faisait le congrès à 1600 personnes, 1200, 1600 personnes avec le côté anglophone. Là, on faisait ça au Reine-Élisabeth. On ouvrait les portes, puis écoute, c'était un stick de gang. Quand on fêtait, là, c'était quelque chose. Et là, je reviens dans une salle de 40, puis je ne reconnais pas personne. Puis je suis assis sur ma chaise, puis je me dis, « Asti, ça ne marche pas pour les ultra-mangeurs, finalement. Ça marche pour des A, je connais du monde qui ont 30 ans. Ça marche pour des NA, je connais du monde qui ont 18-19 ans. Mais dans OA, ça semble que ça ne marche pas, étant donné que je ne reconnais pas personne de ma gang. » Et là, probablement que j'étais en train de regarder la porte, puis je voulais m'en aller, parce que la fille qui faisait la 12e étape est venue me donner l'enveloppe. Il fallait se lever dans ce groupe-là pour venir la chercher au début du meeting. Puis elle me l'a donné, puis elle m'a dit, tiens, si vous voulez lire ça en attendant, tu sais. Puis j'ai rouvert l'enveloppe, puis j'ai vu la documentation que je connaissais, dont avant de prendre la première bouchée compulsive. Puis ça m'a ramené plein de beaux souvenirs, puis j'ai resté finalement. Et j'ai rien compris de ce qui s'est dit ce soir. temps-là, sinon, parce que le gars, il parlait très vite. C'est un gars qui venait du Nouveau-Brunswick, puis il parlait pas trop. Mais il a dit quelque chose à 9h10. Le meeting commençait tard. Il dit, il est 9h10. Puis si tu n'as pas autre mangé depuis que tu es assis dans la salle, là, ben, tu es abstinent depuis ce temps-là. Assis. Moi, là, ça fait 10 ans que je ne suis pas capable de faire une journée. Là. Puis lui, il me fait prendre conscience là, que j'ai fini de souper là, à 6h. Puis rendu 9h10, à ce type, j'ai pas mangé, c'est ma première soirée. Puis là, il y a un gars qui vient prendre son jeton, là, puis qui dit, « J'ai le goût de vivre, moi! » Bon, je le dirai pas à cause de l'enregistrement, mais il a dit un sac. Et ça m'a donné de l'espoir, puis j'ai décidé de me coucher ce soir-là avec de l'abstinence. J'ai pas dormi de la nuit, ça me brassait dans le ventre, j'avais faim, j'ai tourné de bord, puis tout ça. Je me suis levé le lendemain matin, j'ai descendu dans le cave, j'étais allé sortir ma documentation, une belle boîte de documentation, dont un beau gros livre des Alcooliques Anonymes. Il y avait du verre de gris dessus. Je l'ai sorti, puis j'ai pris du, je pense que c'était du, pas du Spick and Span, mais du Monsieur Net, quelque chose de genre, une bouteille verte. Puis j'ai frotté un petit peu, puis il sentait le moisi, puis j'ai ressorti mon livre, puis ça m'a donné le goût de me rembarquer là-dedans. J'ai écrit mon plan alimentaire. Moi, je sais que j'ai un problème avec les farines. Je sais que j'ai un problème avec les sucres. Je l'ai expérimenté durant 10 ans de temps. À chaque fois que j'en ai repris, je finis toujours comme mon beau-père qui finissait une caisse de bière. Ben moi, je finissais dans une caisse de beignes. Puis, je veux dire, à chaque fois, je me retrouve à même assez rapidement dans ce genre d'affaires-là. Fait que je marque sur ma feuille que pour aujourd'hui, je ne consommerai pas de sucre. Puis que je vais m'abstenir de farine blanche pour aujourd'hui, et je pars avec ça. Et ça fait 20 ans passés que je m'intéresse à la nutrition, alors j'ai tous les livres qui existent, puis j'ai le guide alimentaire canadien en 172 copies, puis je l'ai sur Internet, puis je l'ai à mon nom, à moi, puis je l'ai à toutes sortes d'affaires, en tout cas, et tout ce que j'ai collectionné depuis. Fait que je me fais un plan alimentaire en me disant que c'est pas pour maigrir, c'est juste pour stopper l'hémorragie. Fait que je me fais quelque chose qui appartient, je vais le nommer au guide alimentaire canadien, puis c'est dans ses plus larges expressions. Là, je fais aucun sport à ce moment-là, ou à peu près pas de sport, mais je prends le plan de l'athlète, parce que ça représente déjà 3 fois moins que ce que je mange dans une journée. Et je regarde ça, je mets ça dans une assiette, puis aujourd'hui, ça ressemble à un déjeuner de bûcheron, là, tu sais, dans un beau petit restaurant. Mais pour moi, c'était déjà quelque chose d'encadré. Puis je me disais, si tu manges ça, tu ne retournes pas une deuxième fois, puis on va se rendre jusqu'au dîner, parce que j'avais connu le 3-0-1 à l'époque, 3 repas par jour avec rien à tes repas, une journée à la fois. Puis tu as dit, je me lance là-dedans, et fait que je mange tout ça en me disant, si, mais que j'ai mangé ça, je vais être correct pour ta fille, tu as eu le temps. Moi, 15-20 minutes après, ça recommence. Moi, je dis, oh, si j'ai faim, je mangerai quelque chose. Puis l'obsession est là continuellement. Puis je me mets à prier. J'ai lu ma documentation, tout ça. Puis là, je demande à Dieu, mon Dieu, t'as passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est parce que je cherche que t'aimais quand t'as commencé. Moi, je pars avec la réserve. Aide-moi à faire 5 heures seulement, juste 5 heures. Et je me range au dîner. Et je me range jusqu'au souper en faisant ça avec cette énergie-là. Je veux, estime, en sortir. Et je me couche le premier soir-là dans l'abstinence. Le lendemain soir, c'est ce soir-là, on décide d'aller à la ronde et on se brasse un petit peu, puis on a connu 2 grossesses, moi, dans mon couple, puis à chaque fois qu'on avait de la mal au cœur, ou qu'il y avait un des deux qui avait mal au cœur, on mangeait des biscuits soda. Alors, j'ai pris un petit biscuit soda pour enlever ma nausée de m'avoir fait brasser à la ronde, et ça a déclenché la compulsion. Et j'ai mangé tout ce que je mangeais d'habitude là, pour me retrouver encore avec des reflux gastriques le deuxième soir de mes OAF, tout ça. Ça ne m'a pas découragé. Ce que ça a fait, c'est que j'ai besoin d'aide. Je ne pourrais jamais m'en sortir toute seule. Alors, je suis revenu, c'était dans la salle ici, c'était le mercredi, le groupe du mercredi soir était ici. Alors, je suis revenu ici, j'avais vu un barbu le lundi, puis il était en bicycle, puis je l'ai revu le mardi, fait que je m'étais donné comme objectif, j'étais un obsessif. Toute la journée, je me disais, il faut que je demande de l'aide, il faut que je demande de l'aide, il faut que je demande de l'aide. Et mon objectif, c'était de mettre ma main dans la main de quelqu'un puis de dire, j'ai besoin d'aide, je peux-tu t'appeler à tous les jours? J'ai eu une expérience de 10 ans de rechute, mais j'ai aussi une expérience de 10 ans de OA où je sais que je ne peux pas appeler quelqu'un quand je vais mal. Moi, il faut que j'appelle à tous les jours. Il faut que je me dise, parce que quand je vais mal, mon premier réflexe, c'est de fermer. C'est comme me coalise de tout. Fait qu'on ferme les rideaux, on débranche le téléphone, on mange, puis je veux plus rien savoir de personne. Alors, c'est comme, je peux pas aller avec, quand j'irai mal, je vais t'appeler. Pour moi, ça fonctionne pas. Il faut que je t'appelle à tous les jours, puis si je t'appelle pas, ça, c'est normal. Fait que j'ai mis ma main dans sa main, puis j'ai regardé les yeux, puis j'ai demandé, j'ai dit, peux-tu t'appeler à tous les jours? Puis il m'a fait, ben oui, tu peux m'appeler à tous les jours. Il m'a donné deux numéros de téléphone, un au travail, puis un à la maison. Je ne suis pas quelqu'un de très social. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ça se dire. C'est un outre-mangeur, j'ai tendance à m'isoler. J'ai dit, moi, là, je vais t'appeler à tous les jours, parce que je ne vais plus retourner jamais d'où je reviens. Puis là, j'explique un petit peu que j'ai encore compulsé la veille, puis bon, tout ça. Fait que c'est comme, avec un beau grand sourire, il me dit, tu peux m'appeler, puis il me donne les deux numéros de téléphone. Et je m'engage avec lui à commencer à lire mon aujourd'hui, à tous les jours, à confier ma bouffe à mon Dieu d'amour à chaque matin, et de l'appeler pour lui dire que j'ai le désir de rester sur ce chemin-là pour aujourd'hui. Je l'appelais quand il n'était pas chez eux. Je l'appelais chez eux. Puis quand je savais qu'il était au travail, bien, quand il était rendu chez eux, je l'appelais au travail. Mais au moins, je faisais la job de me le dire. Moi, c'était mon engagement. Moi, c'était mon but, c'était qu'ils sachent que j'avais envie de m'en sortir pour aujourd'hui. On est rendu au jeudi. Je m'en vais au groupe Abstinence le jeudi. Ça fait 18 ans de ça. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des gens qui viennent en avant, qui parlent puis qui nous rentrent dedans. La personne qui est venue lire notre méthode, c'est comme si elle brillait, c'est comme si elle s'adressait juste à moi, c'est comme si elle m'avait dit « Si tu veux t'en sortir, tu sais, là, c'est ça que tu dois faire. » Puis c'est comme saisi pour la première fois que je devais être rigoureusement honnête, puis que je devais m'engager à fond dans ce simple programme-là. Puis dans Wall, le simple programme qu'on propose, c'est rien d'autre que nos 12 étapes. Alors, c'est devenu comme bien évident, puis que j'avais juste à m'engager à fond là-dedans. Puis, je suis comme « OK ». Là, moi, je suis devenu un obsédé, je suis un obsédé, alors je veux m'engager à fond dans ce programme-là. C'est comme comment avoir pas m'engager à fond. C'est juste ça qui roule dans ma tête. Vendredi soir, je me retrouve à Ville-Saint-Laurent. Je rencontre, je suis assis dans la salle. La salle est quand même, il y a pas mal de monde dans la salle, tout ça. Puis le meeting commence, puis je suis là, je suis content d'être là. Puis je suis abstinent, j'ai 4 jours de fête, puis je commence déjà à sentir une fébrilité. Puis la fille qui fait la documentation, elle part du fond de la salle, puis elle crie « Mais vous ça, vous autres, les combos! » Puis je reconnais sa voix, puis je me retourne. C'est une Linda que j'ai connue il y a 20 ans passé, qui arrive, puis là, elle dit « Si vous aimez les combos, puis vous avez décidé de vous engager à fond dans ce simple programme, elle dit exactement l'obsession que j'ai. Elle dit « Moi, j'ai le combo qu'il vous faut. » Puis là, elle arrive avec le cahier d'exercice des 12 étapes, puis le petit livre brun des 12 étapes. Fait qu'elle me dit, si vous avez décidé de vous engager à fond là-dedans, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Puis là, elle me montre ça de même, puis moi, je suis un obsédé. Puis là, je regarde, il y en a juste un sur la table. Puis là, si je me dis qu'à la pauvre, je pourrais courir, puis je me la jette, parce que ça, c'est pour moi, cette affaire-là. Et là, écoute, à la pause, je pars, je lui donne mon argent, je ramasse mon lit, je m'assieds dessus pour me le faire voler, puis j'ai hâte d'arriver chez nous, moi, pour commencer à m'engager à fond. Je suis de même, je suis comme ça. T'sais. C'est un compulsif, c'est comme ça. C'est probablement la plus belle chose qui m'est arrivée. Aujourd'hui, je vois ça comme une grâce. Je pense que j'ai eu un cadeau dans ma vie. C'est cette grâce-là d'avoir le désir de m'adonner à fond à ce simple programme-là, dans ce contexte-là où on me demande d'être rigoureusement honnête. Je suis un être foncièrement malhonnête. Il y a deux personnes ici qui pourraient en témoigner. Entre autres, ma belle amoureuse, à qui j'ai été obligé de dire, je ne sais pas combien de fois, dans mes premiers 24 heures, il faut que je te dise quelque chose. J'ai exagéré quelque chose, mon amour. Je ne voulais pas te dire ça. Puis j'ai dit ça de même. Puis écoute, c'est comme, il y en avait plein dans ma vie. Je passais mon temps à me rétracter de niaiseries que j'avais dit, qui n'avaient pas de conséquences nécessairement, mais qui étaient dans ma malhonnêteté. Puis ça composait toute mon histoire de vie. C'était clair. Alors, on me dit que je dois vivre dans la rigoureuse honnêteté. Puis j'ai défait chacun des mensonges que j'ai comptés dans une journée. Jusqu'à temps que un jour il m'arrive une situation, c'est que ça sort de même après quelques années, quelques mois, je te dirais, d'abstinence. C'était un autre beau membre qui est ici dans la salle. Puis ça j'ai senti que je me mettais en boîte moi, quand je mentais. T'sais. C'est comme si je perdais ma liberté. Et je savais plus comment réparer ça. Et je me rappelle encore d'avoir osé. Mais il a fallu que j'appelle mon parrain, il a fallu que je prie, j'écrive pour être capable de dire, si j'ai fait une rechute. Ah, oui, t'as fait une rechute, ouais, mais dans le mensonge, puis c'est tatoué que j'ai dit ça, puis on a ri après, là. Mais c'est la dernière fois que j'ai posé un mensonge, en tout cas de façon concrète, puis je m'en rappelle, puis ça doit remonter à peu près à 12-13 ans, de ça. À peu près, hein, ça doit être à peu près ça. Hein. Alors, c'est ça. Je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais je me suis engagé à fond dans ce programme-là avec une énergie que je me connais comme un compulsif, mais j'ai mis tout le cœur que j'y avais. J'avais compris quelque chose là, avec cette rechute-là, puis avec mon expérience, c'est que je ne pouvais rien faire par rapport à la bouffe. Je suis impuissant devant la nourriture, alors ça ne me donne rien de mettre toute mon énergie dans mon assiette. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, puis j'ai pesé 70 livres de plus, tu sais, dans le sens, c'est comme, c'est ça le résultat. Fait que je ne peux pas mettre d'énergie là-dedans, c'est pas là que ça se passe. Le programme m'emmène à regarder ça une fois, mais après ça, il m'emmène totalement ailleurs. Fait que j'ai fait ma première étape. J'ai admis que j'étais impuissant devant la nourriture, j'ai admis que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Puis je vais vous dire jusqu'à où ça m'a emmené. Jusqu'à quel âge? Je l'ai perdu la maîtrise de ma vie. Ma blonde voulait sacrer son camp, ma boss voulait me mettre dehors, il n'y a plus personne qui voulait venir travailler avec moi. Mes enfants ne venaient pas me dire bonjour quand je rentrais dans la maison, parce que j'étais toujours en tabarnak. J'étais en maudit après tout le monde. J'avais un médecin qui voulait me traiter pour l'hypertension, pour mes problèmes cardiaques. Et il me disait, il faut que tu perdes du poids. Puis je voulais tellement lui faire plaisir. J'aurais tellement voulu le rendre heureux. J'aurais tellement voulu qu'il m'aime. Puis si je n'étais pas capable. Je pouvais me peser jusqu'à 40 fois, moi, dans une avant-midi, là, pour essayer de trouver le style de place là, où c'est que j'aurais pesé 160 livres. Fait que moi, là, je me levais, là, puis j'étais tout nu, là, puis je pognais ma balance, puis je la mettais sur le coin, parce que je savais que sur le coin-là, d'habitude, il y avait une livre de moins. Puis là, c'est comme, j'étais dessus, puis je regardais, puis là, je faisais le tour de la maison, là, tu sais. Je suis un père de famille, là. Je suis un adulte, je suis un père de famille, là, puis je me comporte de même. Puis là, je bois de l'eau, puis là, je me pèse, puis là, je pisse, puis je me pèse. Je fais une crotte, puis je me pèse. C'est comme... Aujourd'hui, je considère que ça, c'est de la folie mentale. Pour moi, c'est de l'obsession mentale, mais je suis comme ça. Je fais ça continuellement. C'est une obsession. C'est un toc, hein? C'est comme... je peux prendre jusqu'à 6, 7, 8 livres en 2 semaines. Puis là, je revois mon médecin 2 semaines plus tard, puis je vais les reperdre en faisant des cours d'aérobie à 260 livres. 2 cours d'aérobie, 1 demi-heure de bicycle, puis je saute comme une gazelle. Puis la petite prof qui est là, elle me dit, elle m'appelle son bébé, elle m'appelle son bébé. Écoute, tu sais, dans mes collants, tu sais. Elle me dit, « Hey, mon bébé, t'es bon, ouais, on saute à soir. » Puis là, moi, je le hostie, puis je saute, puis je veux tellement, j'en ai de la volonté, mais je me blesse, je me fais mal dans les genoux, je me fais mal dans le dos, puis je continue. Parce que je veux qu'elle m'aime, parce que je veux être maigre, parce que je veux que mon médecin m'aime, parce que je suis impuissant, puis je ne suis pas capable. Alors, perdre la maîtrise de ma vie, là, ça, c'est juste comme la pointe du iceberg. Là, je ne vous dirai pas tout le reste, mais j'ai eu peur de me faire enlever par les extraterrestres, de me faire séquestrer par des maniaques, me faire enlever, puis me faire... Je vais le compter, moi, c'est comme... Moi, là, si j'ai 30 quelques années, là, puis là, je finis de travailler 11 heures le soir, puis je suis mort de peur aussi, puis là... Je prends l'autobus, puis j'ai un petit bout de rue à faire comme site au métro, là, puis tu sais, c'est une rue éclairée, puis bon, c'est comme on est à Montréal, puis plein de monde à cette heure-là. Mais moi, là, je me sens seul. Moi, je me sens que j'ai comme 7-8 ans, j'ai peur de me faire enlever. Puis j'ai peur qu'ils me prennent, puis qu'ils me mettent dans un char, là, tu sais, dans une valise de char, puis qu'ils me demandent une rançon. Là, puis dans ma tête, là, c'est comme, il n'y a pas d'argent dans ma famille, ici, ils ne pourront jamais me récupérer. Mais j'en ris aujourd'hui, là. Mais moi, là, c'est ça qui m'habite. C'est ça qui m'habite quotidiennement quand je finis de travailler. Je me promène avec mes clés de char, je shake comme ça, puis je rentre chez nous, puis j'outre-mange parce que je suis équipé comme ça. T'sais. Alors, si ça, c'est pas perdre la maîtrise de sa vie, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, moi, j'ai admis que j'avais perdu ma maîtrise avec ce bout-là. En tout cas, ça a fait comme... Puis ça, là, il a fallu que je l'écrive dans ma première étape, puis que je le mette sur une page, puis que je regarde cette ampleur-là, parce que pris, tu sais, tu te pèses le matin, tu oublies ça, là, quand tu as outre-mangé après ça, puis tu as peur le soir, puis un coup que tu as menti, que tu as bu dans la pinte de jus, puis tu as mangé quelque chose, puis tu viens d'oublier ça. Mais quand tu mets ça devant, tu te rends compte que c'est là quotidiennement, puis ça fait partie de ton histoire. ça fait comme, ah, si, c'est gros. Et pour moi, ça m'a permis d'admettre que j'avais aussi perdu la maîtrise de ma vie. Il me reste à peine 6 minutes. Alors, j'ai travaillé pour comprendre c'était quoi ma puissance supérieure. Alors moi, je me suis défini une puissance supérieure qui mène à la folie. D'en haut, là, on nous offre cette opportunité-là de choisir notre puissance supérieure puis de la définir. Alors moi, j'ai donné tous les attributs, puis je continue d'y en donner. Là, quand j'ai un problème, là, je l'envoie se former. Moi, je dis, c'est lui, il va se former. Si on a besoin de ça la prochaine fois, tu sais. C'est quand même assez drôle parce que y a des choses qui se mettent en place. En fait, là, c'est ça. C'est comme, moi, je rouvre, là. Faudra pas mettre ça sur le site, finalement. En tout cas, ou changer ma voix. Il y a une énergie qui se trouve quand je suis dans cette affaire-là. Puis il y a des choses qui se passent. Puis il y a comme des réponses qui arrivent. Il y a du monde qui arrive. Il y a une lecture qui arrive. Il y a quelque chose qui se met en place qui m'emmène à trouver. Moi, je mets ça comme... Si t'es bon à l'école, mon Dieu, c'est bon, lâche pas. Il ne me lâche pas. Troisième étape, on nous demande de confier notre vie, notre volonté. Puis quand on lit le libellé, la troisième étape, on nous dit qu'on doit tout abandonner. Alors, tout abandonner, moi, c'est mon 160 livres. Hein? C'est comme, asti, cette obsession-là, elle est là, mais je ne peux plus y donner de pouvoir. Alors, OK, le 160 livres, je le mets. Je le mets là. Si un jour, à 83 ans, je paye 160 livres, je dirais comme le beau membre que je connais, « Ah, je suis rendu à 86 ans, puis je paye 160 livres, wouh! » Puis je me vanterai là. Pour aujourd'hui, je suis obligé d'être au poids que je paye aujourd'hui, puis de vivre avec ça. Mon désir, à moi, c'est de ne pas autre manger, puis d'être heureux aujourd'hui. Alors, c'est comme, j'ai pas autre manger aujourd'hui, puis j'ai été heureux. Alors, je me dis, j'ai pas engraissé, ça, c'est sûr. Peut-être pas plus maigre, mais au moins, j'ai pas engraissé, ça, c'est sûr. Puis ça a pas dérapé aujourd'hui, alors, c'est un beau cadeau. Il a fallu aussi que je mette ma relation avec ma blonde, il a fallu que je mette mon travail, il a fallu que je mette toutes mes connaissances au niveau de la nourriture, tout ce que j'avais appris qui se mêlait dans ma tête avec tout. Là, moi, là, j'ai toutes les notions qui sont venues depuis que j'ai 9 ans, là, tout ce qui s'est dit, puis tout ce qui s'est. J'ai tout ça mêlé, puis je me suis fait des plans alimentaires à travers de tout ça. Fait qu'il a fallu, moi, que je dise, OK, si je lâche tout ça, tu vas me nourrir comme je dois me nourrir, puis je te fais confiance. Et je me rappelle encore, on en a parlé, on a étudié, on est dans ce mois-là, dans mon groupe d'appartenance, puis je me rappelle encore du mouvement d'avoir dit, OK, je te donne ce qui me reste. Ce qui me restait, c'était mes enfants, puis ma femme, là. Puis c'était comme, si je te donne tout ça. S'il faut que je perde ça pour aller bien, là, je suis prête, t'sais. Mais c'est un Dieu d'amour. Alors, généralement, c'est pas un chien. C'est un chien sale, probablement, la blonde serait plus là. Mais 30 ans plus tard, elle est encore là, puis est venue à soi, avec moi. Je suis bien content. C'est ça. Ça m'a emmené à passer à travers la quatrième étape. Je l'ai faite dans le modèle du gros livre des alcooliques anonymes. Mon parrain m'a offert, parce que le gros barbu là, que j'appelais puis que j'appelais pas, à un moment donné, j'ai eu faim. Hein, entre deux repas, j'ai eu très faim. Puis mon réflexe de l'appeler là, a fait que j'ai sauté sa ligne, je l'ai appelé, puis j'ai demandé de l'aide. Puis là, il m'a dit, ah, ça c'est de la frustration. Fait que quand on est frustré, on l'exprime puis on le mange pas. Fait que je l'ai pas mangé cette fois-là, puis j'ai conservé mon abstinence. Ce bonhomme-là, la journée de sa fête, il m'a offert d'écouter ma cinquième étape de ce que j'avais écrit. Alors, je me suis libéré la conscience de tout ce que j'avais sur la conscience. Quand je l'avais écrit, là, je serais jamais capable de dire ça. Mon Dieu, que toi-en. Et rendu là, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a permis de le faire. Même que mon parrain s'est reviré de bord, il s'est juste mis l'épaule là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu passes pas aucune remarque, là. J'ai des choses que je dois dire. Puis j'aimerais ça juste que tu m'entendes. Comme l'être humain, je le dis adieu à moi-même puis à un autre être humain, j'aimerais ça que tu sois l'autre être humain. Alors j'ai sorti ce qui m'embêtait dans ma vie depuis ma naissance. Mais c'est sentiment de liberté que je me rappelle encore cette journée-là, l'impression que les arbres m'aimaient, que les oiseaux chantaient pour moi, que le ciel brillait pour moi. C'est comme ce sentiment de grâce-là et là. À travers tout ça, j'ai vu que j'étais équipé. Mettons, je suis comme framé, moi, sur des cure-dents. Moi, mon frame intérieur, là, ça tient comme, tu sais, c'est comme un montage de cure-dents. Fait que c'est comme, s'il vente, là, ça craque. C'est comme, des journées, je me sens hyper solide, là, puis il arrive une affaire, puis ça craque. Fait que j'ai ce frame-là, moi, dedans de moi. J'ai pas cette solidité-là que j'aimerais avoir, puis d'être un gars fort. Je suis un autre mangeur compulsif, puis autant une journée, je peux me sentir resté comme un homme de fer, le lendemain, je peux me sentir comme une lavette. Puis ça fait partie de ma condition d'outre-mangeur, puis je compose avec ça au moment où c'est là. Alors, on a découvert qu'il y avait des traits de caractère déficients dans moi, des défauts, on va les nommer comme ça. J'en avais une page et demie de défauts qu'on avait ressortis à travers la cinquième étape. On m'a aidé à consentir à ce que je puisse me libérer de chacun de ceux-là. J'ai réalisé que ces défauts-là avaient causé du tort à mon entourage et à moi-même. Alors, j'ai consenti à réparer mes torts. Je me rappelle encore d'avoir cherché d'en haut, il y a 18 ans, mais en tout cas, il y a 17 ans, comment on fait ça, une 9e étape, tu sais, puis moi, je dis que c'était nébuleux. Le monde disait, moi, j'essaie de ne pas reproduire ce que j'ai déjà fait. J'essaie de m'abstenir de mes comportements. Bon, tu sais, il y a une membre qui avait des yeux hyper brillants, qui était à Ville-Saint-Laurent, qui m'a dit, moi, je l'ai fait comme dans le gros livre des Alcooliques Anonymes. Ils nous disent, là, Asti, tu vas cogner à la porte de tout le monde que tu as lésé, tu vas aller regarder dans les yeux, tu vas aller t'excuser d'avoir fait ça parce que tu ne veux plus retourner outre manger compulsivement. Puis elle dit, Asti, que ça fait du bien. Moi, je suis parti avec ça, là, la liste de personnes que j'avais, je les ai mis là, puis j'ai prié pour chacune d'elles jusqu'à temps que j'aie le courage de le faire. J'ai appelé mon parrain des fois, trois fois dans une soirée pour lui dire, je veux juste faire un appel, Asti, pour dire, je vais prendre une date avec cette personne-là, là, puis je n'étais pas capable. Fait qu'on rassayait le lendemain. Puis là, c'est pas grave, on va rassayer demain. Là, je rallumais ma chandelle. Là, je le rappelais. Je dis, bon, pas appelé, OK, là, je me sens craqué. Là, je commençais à signaler qu'on me débattait. Puis c'est comme, je raccrochais, puis je priais encore, puis je rappelais jusqu'à temps que je puisse pogner le téléphone, puis dire, j'aimerais ça avoir un rendez-vous avec toi le plus rapidement possible. Ça va durer à peu près une demi-heure ou une heure. J'ai besoin de te dire quelque chose. Puis là, je raccrochais, puis je disais, j'ai mis le rendez-vous. Là, il me reste juste à me rendre maintenant. Mais le pire, c'était de prendre le rendez-vous. Alors moi, j'ai nettoyé là, ma vie au grand complet. Chacune des personnes que j'avais lésées, là, je suis allé nettoyer ma relation avec eux autres. Moi, là, quand je me regarde dans le miroir, là, je me sens heureux. Je me sens capable de me regarder dans le miroir et je peux soutenir le regard de tout le monde. Un cadeau qui ne s'est pas démenti depuis les 17-18 dernières années. Je passe tout parce que ça a houlé, là. Ça n'a pas toujours été facile, mais je vous dirais que depuis les 8 dernières années, il y a quand même une stabilité qui s'est installée là-dedans. Un coup que le ménage a été fait, j'ai entrepris de faire ma 10e étape, quelque chose que j'ai trouvé ardu. Ça m'a pris presque 5 ans à l'installer. Moi, je faisais une 10e étape quand j'allais bien, puis quand j'allais mal, je n'avais pas le coup de la faire. Fait que je ne la faisais pas, fait que ça ne sert pas à grand-chose. Puis un jour, au congrès, il y a une membre qui m'a dit, « Ben, moi, je l'ai envoyé à mes filleules, puis on se l'envoie entre nous autres. » Et de cette façon-là, je réussis à la faire. Mais depuis 12 ans, cette bonne femme-là, elle reçoit ma 10e, puis je reçois la sienne. Et ça ne s'est jamais démenti. Je l'envoie aussi à mon parrain, puis à quelques autres membres. Parce que c'est important de ne pas avoir juste un parrain pour moi. Moi, mon parrain est tombé malade, il a rechuté en cours de route et j'aurais pu rechuter avec lui. Alors, d'avoir un réseau supportant, moi, ça m'a permis de rester la tête en dehors de l'eau et de je continue de me rétablir pareil. Dieu merci, il est encore là aujourd'hui. Mais j'ai été un bout qu'il n'était pas accessible pour moi. Je suis un éparpillé, j'ai le cerveau qui court de tout bord de côté. On m'a enseigné la méditation, la prière et la méditation. Alors, ça aussi, ça a été long à installer, mais c'est quelque chose qui est installé dans ma vie. Puis quotidiennement, je médite aujourd'hui. Puis régulièrement, dans la journée, il m'arrive de reméditer, puis je passe mon temps à prier. Il s'est passé quelque chose en dedans de moi. On parle d'un réveil spirituel, là, puis j'ai envie de vous dire c'est quoi pour moi le réveil spirituel, juste avant de quitter, je quitte là-dessus. Là. C'est comme... Moi, là, je me suis déjà frappé à grands coups de poing dans le ventre. T'sais. Puis aujourd'hui, là, je me traite comme mon meilleur ami. Alors, pour moi, le réveil spirituel, là, c'est j'ai pas envie de me laisser tomber, puis je m'aime. Alors, ce programme de rétablissement-là, pour moi, c'est ce qui m'a donné. Et on dit qu'on essaie de transmettre ça aux autres. Alors, moi, j'espère que je vous ai donné le goût à soir de vous aimer assez pour faire un pas de plus dans ce programme-là, parce que ça vaut la peine. Merci.